It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Si je vais dans une boutique, c'est terminé, c'est trop tard. Parce que ce qui se passe dans une boutique est vraiment un monde parallèle pour moi. C'est, je suis en dehors de la réalité. Donc, si je suis en dehors de la réalité, je suis en dehors de la réalité de l'argent.
J'ai rencontré Léa en mai dernier, après qu'elle m'ait invitée à venir observer une réunion des débiteurs anonymes. Alors je vais être franche, si je connaissais les alcooliques et les toxicomanes anonymes, je n'avais jamais entendu parler des DA. C'est exactement le même principe, à savoir des gens qui se regroupent et s'entraident pour essayer de réguler leur comportement. Là, c'est avec la thune. À cette réunion, j'ai découvert un monde où l'argent est source de tous les maux, un monde peuplé de gens divers, riches, pauvres, entrepreneurs, chômeurs, artistes et j'en passe, réunis pour une seule raison, essayer de se libérer d'un rapport toxique, au fric. L'épine dans le pied de Léa, c'est la dépense, ou plutôt les dépenses, car elle claque comme elle respire, beaucoup et depuis très longtemps. C'est la copine flambeuse et toujours bien sapée, la parisienne à la mode, de la tête aux pieds. Ça pourrait être marrant, mais ça ne l'est pas vraiment. Aujourd'hui, on fait une écoute dans le monde de celles et ceux qui ne savent pas gérer leur argent. Bonne écoute. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Thune. Alors Léa, tu as
62 ans.
Léa, tu as 62 ans. Tu vis à Paris ? Tu travailles ?
Je travaille, mais j'ai pris ma retraite. Et en même temps, j'ai une activité parallèle pour compléter la retraite, parce que évidemment, vu que je suis quand même quelqu'un d'assez dépensier, la retraite, même si elle existe, parce que j'ai eu un métier qui était plutôt bien rémunérateur, néanmoins, ça ne me suffit pas. Donc je travaille en plus de ma retraite.
Alors par rapport au travail, je préfère l'annoncer tout de suite, tu ne nous diras pas ce que tu faisais dans la vie. Puisque tu préfères rester anonyme par rapport à ça, de la même façon que ton prénom n'est pas ton vrai prénom, mais effectivement, tu es quelqu'un qui a plutôt très bien gagné ta vie.
Absolument. Et puis, le problème ou la question n'est pas le milieu dans lequel j'ai gagné ma vie, ou en tout cas le métier concrètement dans lequel j'ai travaillé. La question est plutôt, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent ?
Ça te dérange pas, toi, de parler d'argent, Léa ?
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je suis très prolixe là-dessus. Oui, c'est un de mes sujets de conversation favoris. Voilà, j'écris là-dessus aussi parce que j'ai envie d'y voir clair dans mon comportement. Enfin, c'est un sujet dans ma vie, l'argent.
Alors, avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours. Où est-ce que tu as grandi et que faisaient tes parents ?
Alors, j'ai grandi dans un milieu plutôt, on va dire, artiste, à une époque où posséder une maison, amasser des choses, etc., n'était pas du tout l'état d'esprit de mes parents, qui étaient plutôt 68ards. Donc j'ai été élevée très confortablement avec des parents qui n'avaient pas beaucoup la notion de mettre de côté et qui étaient plutôt cigales que fourmis, avec plutôt des beaux voyages, des beaux vêtements, une vie confortable, des huissiers parfois, des engueulades entre mes parents parce qu'il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait, ma mère qui planquait les paquets qu'elle achetait, enfin les fringues qu'elle achetait, qu'elle planquait sous le lit pour que son mari et mon père en l'occurrence ne les voient pas. Enfin, très tôt, l'argent a été présent dans mon existence et j'ai très aimer dire, je vais dire un truc que j'aime pas trop dire, mais consommer, quoi. Acheter des trucs, acheter.
T'étais parisienne ?
Parisienne.
Et très tôt, t'as senti que t'aimais claquer.
J'aimais les fringues, j'aimais qu'on me dise que j'étais bien habillée, j'aimais les vacances, j'aimais un peu les trucs luxueux. Je peux pas dire que j'aimais l'argent. D'ailleurs, je ne peux pas dire que j'aime l'argent. C'est pas l'argent que j'aime. Pour moi, l'argent n'a pas de valeur. C'est bien le problème. C'est que, voilà, si j'arrivais à donner une valeur aux choses et à ce que je gagne, j'en serais sans doute pas là où j'en suis. Donc, c'était pas l'argent qui m'intéressait. C'était ce que l'argent me permettait d'avoir et la jolie robe que la copine à l'école n'avait pas. À 16 ans, d'avoir une moto, alors qu'une gonzesse à 16 ans, à l'époque, même pas en rêve, elle pouvait avoir une moto et moi j'arrivais au lycée avec une moto. Enfin voilà, c'était très, très superficiel, on va dire.
Mais donc, tu venais quand même d'un milieu plutôt nantis, quoi.
Ah oui, plutôt. Ouais. Mais enfin, très dépensier, on va dire.
Très dépensier. Voilà. Donc, c'est une affaire de famille.
Oui, et des parents qui n'ont pas mis d'argent de côté pour leurs enfants.
Donc, une idée de l'argent, on va dire assez frivole. T'as envie de claquer, t'as envie de te faire plaisir. Bon, bah, pour une adolescente qui a de l'argent, finalement, ça fait sens. Est-ce que tu te disais plus tard, je serais riche ?
Plutôt. En tout cas... Riche, non, mais j'aurais une vie hyper confortable. Je me voyais avec un mari dans une super belle maison. Je me souviens avec un duplex. Enfin voilà, je m'imaginais une vie hyper confortable. Mais encore une fois, c'était pas l'argent, quoi. C'était sans doute la représentation de cette vie comme si la vie était forcément meilleure si elle se déroulait dans des conditions comme ça. Donc oui, je projetais ça.
Est-ce que tu faisais un lien entre le fait de travailler et de gagner ta vie?
J'ai toujours eu un métier ou des métiers qui m'ont où je me suis toujours trouvée très chanceuse de les faire. Ça m'intéressait, ça m'amusait. C'était comme si presque... Mais c'est dingue, on me paye pour bosser, pour faire ce truc si sympa. Donc, je ne reliais pas la charge de travail à l'argent. Alors, en tout cas, au début, après un peu plus, parce que... Voilà, mais souvent, je me suis dit, en fait, c'est génial de gagner de l'argent pour ce que je fais.
Pendant combien de temps t'as bossé dans cet état d'esprit?
Jusqu'à ce que je commence à avoir des problèmes d'argent, en fait. Enfin, tu vois, où vraiment, là, je me suis dit, bon, il faut que je gagne de l'argent. J'en ai besoin parce que j'ai un niveau de vie tel que qu'il faut que mon métier me rapporte de l'argent. Donc j'allais plus dans ce cas-là vers des projets qui étaient rémunérateurs et peut-être un peu moins intéressants que ce que j'avais au départ.
Tu vas me raconter un peu comme ça ta vie à la trentaine. C'est quoi? Où est-ce que tu vis? Combien tu gagnes? Combien tu dépenses?
Alors, je gagne très bien ma vie. Je suis en CDI dans une grosse boîte et vraiment, je gagne bien ma vie. Je suis encore célibataire, donc je vis dans un petit appart, pas très luxe. C'est ça le problème, c'est que moi, je dépensais beaucoup pour des vêtements, des crèmes de beauté, des restaurants, des trucs. Mais pas tellement pour, j'allais dire, mon intérieur, ma maison en tout cas. Le propos n'était pas celui-là. Puis bon, moi, j'ai eu des problèmes... lié à une dépendance aux produits, etc. Donc, j'ai très vite dépensé de l'argent d'une manière pour me faire du mal, en fait. Et en fait, l'argent n'avait pas du tout de valeur, si ce n'était celle de me permettre de prendre ce qui me faisait passer ma journée, de la drogue, quoi.
Oui.
Donc,
à l'époque, j'imagine que tu devais appeler ça une façon festive de dépenser ton argent.
Non.
Non. Même pas.
Non, parce que très vite, je pouvais plus me raconter que c'était festif. Mais par contre, je pouvais dépenser des sommes importantes alors qu'on me disait, je te préviens, ce que je vais te vendre, c'est dégueulasse. Et je laissais quand même un billet, à l'époque c'était des francs, mais je sais pas, de 500 francs, quoi.
Ouais, des dealers.
Oui, qui te disaient, non, celle-là est pas bonne.
Attentionné.
Oui, c'est ça. Mais enfin, ils me le vendaient quand même.
Hein. Oui.
Donc, voilà. Et donc, à cette époque-là, l'argent avait cette fonction-là. Je travaillais toujours parce que j'ai eu la chance de pouvoir quand même pas perdre complètement pied et de continuer à travailler. Mais mon argent me servait à ça, quoi. Donc, j'avais besoin d'argent, mais c'était plus très rigolo. Ça a duré une bonne dizaine d'années. Puis, je me suis mariée.
À quel âge?
Je me suis mariée à 35, avec quelqu'un qui avait de l'argent. Et c'était rigolo, quand on s'est rencontrés, il m'a dit « je vais t'acheter une voiture, parce que comme je ne conduis pas, j'ai besoin que la personne avec laquelle je vis ait une voiture. Et on est parti en vacances tout de suite très loin. Enfin voilà, c'était une vie très confortable. Donc j'ai arrêté un peu de faire des bêtises. Je n'ai pas travaillé beaucoup pendant cette époque-là. J'ai eu envie de faire une reconversion. Je voulais devenir commissaire-priseur.
Oh. Mmh.
Et puis je suis retournée à la fac, tout ça, et là, je gagnais pas ma vie, donc je vivais, mais je dépensais trop.
Tu dépensais l'argent de ton mari?
Absolument.
T'avais le duplex ou pas?
Si j'avais un duplex, ouais. Non, mais j'avais une maison super belle. Vraiment, j'étais dans une belle maison en banlieue parisienne, une vie super agréable. C'était quelqu'un qui gagnait vraiment bien sa vie. Donc voilà, j'ai dépensé son argent, on faisait des très très beaux voyages. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, j'ai un métier, quoi. Le métier que je faisais avant, et commissaire-priseur, c'est bien beau, mais c'est pas demain matin que j'aurai une charge. C'est pas demain matin que j'aurai ma charge de commissaire-priseur. Donc, j'ai recommencé à travailler. Et je me suis séparée de mon mari. Et je suis rentrée dans une boîte très florissante, où j'ai travaillé pendant 10 ans avec un salaire très élevé.
De combien?
À l'époque, je gagnais net. J'avais donc, 38 ans. Je gagnais 5 000. C'était quand même...
Euros.
Mmh. Donc, c'était quand même assez confortable. Puis surtout, suffisamment, rassurant pour les organismes de crédit. Ce qui fait que j'ai pris une multitude de crédits revolving.
Ah, on va y venir, parce que toi, ton sujet, quand même, hein, ton sujet principal, ce qui t'amène ici, c'est que t'es une claqueuse.
Ah bah oui.
Oui.
Ouais.
Et tu dépenses de l'argent, principalement, dans les fringues.
Beaucoup.
Ouais.
Beaucoup.
Et puis dans les accessoires, et puis dans les cosmétiques.
Voilà, voilà. Dans le paraître.
Dans le paraître.
Soyons clairs.
Voilà. Dans le paraître. Donc, ce sujet-là était un petit peu étouffé pendant toute ta période plus ou moins cocaïnomane, hein,
voilà,
c'est ça?
Ouais.
Mais c'était quand même là.
Oui,
ouais.
Mais bon. Moins.
Moins.
Bah forcément, on peut pas tout faire.
Voilà. Tu t'en sors, t'as ce mari riche.
Je finis par m'en sortir, etc. Voilà.
Et puis, tu te retrouves toute seule. Alors là, t'as un boulevard.
Voilà,
avec
exactement.
Plus personne, plus de petit œil qui te regarde par-dessus ton épaule.
Pour me contrôler,
voilà.
Etc.
Et puis, t'as pas un peu trop dépensé.
Bah ouais. Et roule ma poule, quoi.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai commencé à dépenser, évidemment, plus que ce que je gagnais, à prendre un crédit, un deuxième crédit, un troisième crédit. Et voilà. Et je me disais à chaque fois, non, j'arrête. Promis, j'arrête.
Tu parles de crédit à consommation?
Oui. Revolving, comme on disait. Mm-hmm. Il y en a moins maintenant. Et donc, je suis allée jusqu'à 150 000 euros de dette pour ne rien avoir. Ce n'est des jolis pulls noirs.
Des jolis pulls noirs.
Voilà.
T'achètes des pulls noirs?
Beaucoup.
De marque?
Ouais. De marque, ouais.
Et des jeans, des pantalons, des robes de soirée?
Oui, mais j'achète. Je mets plutôt des pulls. Pulls, des pantalons. Je suis pas très chaussures ni sacs.
Ah ouais? Non. Alors que c'est quand même le truc le plus cher.
Bah oui, mais t'inquiète pas qu'on peut quand même bien dépenser. Et puis, si tu veux, si tu fais... Ben voilà, l'argent n'est pas extensible, quoi. Il y a les loyers à payer, il y a tout ce qu'il y a à payer autour. Moi, j'ai une petite une fille. Enfin, elle n'est plus très petite, mais une fille. Je me suis remariée. Donc, acheter surtout des vêtements. Surtout une marque précise.
Tu veux pas nous dire laquelle?
Ben si, Isabelle Marant.
Ouais.
Depuis des lustres. Alors, je ne peux pas t'expliquer pourquoi.
Elle a excité beaucoup de monde, Isabelle Marant.
Ah ouais,
Marant.
Mais alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi.
Ça a marché.
Oui,
tu
mais
n'es pas seule.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de... Tu vois, ah, ok, c'est pas mal, c'est... Mais j'ai du mal à m'expliquer le... Enfin, je pense que chez moi, il y a eu un côté addiction à elle.
Mm.
Tu vois, parce que c'était... tout ce qu'elle faisait était bien, alors que tout ce qu'elle fait n'est pas forcément bien.
Non, mais au début, c'était une proposition qui était super nouvelle.
Ouais.
Ça n'existait pas.
Non.
Elle s'adressait à une femme... C'était la précurseuse des bobos.
Ouais,
en fait,
c'est
le
ça.
Mot n'existait
ouais.
pas. Je
ouais,
crois
ouais,
que le Isabelle Marant est arrivée avant le bobo.
Ouais, ouais, ouais.
Donc elle a raconté un truc
ouais.
avant que nous-mêmes ayons mis le doigt
ouais,
dessus.
Ouais, ouais. Et ben moi, elle m'a bien alpagué. Hein. Et ça a continué. Et aujourd'hui, j'ai plus les moyens. Mais les 155 000 euros de dette, elle n'y est pas pour rien. Ou en tout cas, elle peut-être pas, mais en tout cas, sa mode et mon comportement face à sa mode y est pour beaucoup.
Je lui a permis d'ouvrir sa 12e boutique.
Voilà.
Merci à toi.
Exactement. D'ailleurs, elle en ouvre une à Saint-Tropez, là. Je vais lui demander des royalties.
J'aimerais bien quand même comprendre, dans ce processus d'achat, donc notamment de fringues, comment il se joue chez toi. Est-ce que tu te dis, tiens, je vais faire les boutiques? Est-ce qu'il y a une espèce de montée en puissance, d'excitation? Est-ce qu'il y a des regrets une fois que tu as acheté? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on a des achats comme ça, compulsifs?
En fait, d'abord, le truc important, c'est que ma mère est comme ça, enfin, était comme ça. Elle est toujours vivante, mais elle, heureusement, ça finit par lui passer à l'âge qu'elle a. Mais elle était comme ça. Donc, j'ai vraiment vu ma mère fonctionner comme ça. Je sais pas, tout d'un coup, l'envie me prend. Si je vais dans une boutique, c'est terminé, c'est trop tard. Parce que ce qui se passe dans une boutique est vraiment un monde parallèle pour moi. C'est je suis en dehors de la réalité. Donc, si je suis en dehors de la réalité, je suis en dehors de la réalité de l'argent. Je suis plus riche, plus à l'aise, etc., que je ne le suis dans ma vie. J'aime le regard des vendeuses quand j'essaye un truc. Et je suis totalement dupe de ce regard. C'est un peu, je suis un peu la princesse, quoi. Et on me regarde, et ça me va bien. J'ai une silhouette qui est plutôt mince. Donc voilà, je porte plutôt bien Isabelle Marant. Et parfois, il y a les clientes aussi qui me disent ouais, « ça vous va bien ?» et tout. Bon, bah voilà, hein, moi, je demande, voilà, hein, je suis suffisamment, je ne vais pas dire bête, mais enfin...
La cliente qui te dit que ça te va bien, c'est la meilleure vendeuse. Elle,
oui.
Elle est fatale.
Donc, c'est un monde parallèle dans lequel ce qu'il se passe, pour moi, n'est pas la réalité. Je suis toute puissante aussi. Si tu veux, le problème, c'est que du coup, comme l'argent n'est pas extensible, ça fait qu'il y a des choses que je n'achète pas. Et qui sont utiles. C'est forcément au détriment de choses moins rigolotes, mais néanmoins importantes.
Comme
donc, je ne sais pas, comme bien meubler ton appartement, comme partir en vacances, comme aller chez le dentiste, comme... voilà. Et ben, quand je claquais trop d'argent, ces choses-là, elles passaient derrière. Parce que le moment passé dans la boutique était comme une drogue, sans doute.
Et avec une redescente ? Le parallèle avec la drogue.
Oui,
donc,
oui, mais pas tant que ça. Ouais. Je revends des beaucoup. Mais pour te dire, je pense que c'est vraiment le moment où j'achète dans cette boutique parce que je me souviens d'une fois où moi, je circulais beaucoup en deux roues et j'avais dû acheter un ou deux trucs qui étaient dans mon sac et j'en perds un sur la route. Mais j'en avais rien à foutre.
Ouais.
Alors que je venais de l'acheter.
T'es reparti.
Je l'ai même pas cherché.
Ouais.
Tu vois, je me suis dit, oh merde, chier, tout, c'était joli. Mais point.
Ouais.
Donc, c'est même pas ce que j'achète. C'est autre chose qui se joue dans cette boutique, quoi. C'est maudit pour moi.
C'est maudit pour toi. Et
il faut pas que je rentre.
Ouais, faut pas rentrer.
Non.
Ouais. Et ça, ne pas rentrer, c'est...
C'est difficile. Alors, j'apprends parce que je grandis quand même et que je me raisonne. Mais j'y rentre encore trop souvent.
Des dépenses hyper conséquentes en vêtements, etc., mais qui peuvent aller jusqu'à combien pour une pièce, juste pour comprendre.
Non, mais c'est pas une pièce, c'est l'accumulation, c'est bien ça le problème.
Ouais.
Si tu veux, si j'achetais un truc à 1000 euros, je veux dire, l'argent est quand même pas... Alors, je me suis beaucoup endettée, mais moi, j'achète beaucoup de choses. J'achète un pull à 200, et puis un pantalon à 300, et puis un bijou que je trouve, une petite bague à 80, et puis ça va vite, hein.
Ouais, c'est ça.
Donc, tu vois, j'ai quand même pas 200 000 euros à dépenser tous les mois, donc, puis il y a quand même un loyer, donc j'ai un tout petit peu quand même de raison.
Ouais.
Puis bon, je suis aujourd'hui dans un programme de rétablissement qui fait que j'essaye de mettre de la raison dans mon comportement totalement taré. Donc, je dépensais, si tu veux, je me suis retrouvée à gagner 7000 euros par mois et à être obligée d'emprunter de l'argent à mon mari.
Les gens autour de toi étaient au courant de ça ?
Je me planquais un peu, hein.
Ouais.
Je me planquais auprès de ma famille, surtout.
Ouais.
Non, je me planquais. Puis, je déteste aller faire des courses avec les gens. J'aime bien être toute seule.
Ouais.
Ah oui.
C'est mon
truc à moi.
Et tes amis, non ?
Non, elles le savent, mais je ne fais pas de course avec mes amis, jamais.
Les restos, trucs comme ça, t'étais la personne qui avait tendance à inviter tout le
non,
monde
pas du
non,
tout, moi c'est que pour moi.
Ouais, c'est vrai.
Non, je n'invite pas, je ouais. paye ma part, ouais. mais je ne suis pas... quand j'ai eu ma fille, je me suis pas mis à dépenser pour elle.
Alors justement, t'as eu une fille,
ouais.
voilà, ça n'a rien changé ça. On peut imaginer que ça aurait un petit peu ralenti
non.
les fringues de bébé, tout ça.
Oui, un petit peu, mais non.
Non.
Non. Non.
Comment tu fais à ce moment-là? Ça coûte cher un enfant. Bah, quand
j'étais,
même.
Je me suis remariée.
Ah bah oui. Tu te remaries.
Bah voilà. Ouais.
Et les maris sont partants pour que tu dépenses.
Non, ton... non, non, non. Ça, alors là, ça a été un gros souci avec mon dernier mari duquel je suis séparée et l'argent n'y est pas pour rien dans cette séparation.
Ouais, ouais.
Parce que alors c'est quelqu'un qui gagnait plutôt moins bien sa vie que moi, mais qui était extrêmement lui, fourmi, mais intelligemment. Hein. Il s'est acheté des trucs dans Paris, des studios pour pouvoir les louer. Enfin voilà, il sait mettre de l'argent de côté et ça le rendait dingue. Parce que lui était très insécure avec l'argent et moi, je l'insécurisais puisque ouais. j'arrivais tout d'un coup. Il ne le savait pas que j'avais 150 000 euros de dette. Mais à un moment, j'ai bien été obligée de lui dire.
Et, ah oui, combien de temps après que vous soyez mariés?
Oui, ouais. en plus.
Ah oui.
En plus,
surprise.
Je vais te dire pour la raison pour laquelle on s'est mariés. Enfin bon, j'étais amoureuse, hein, mais parce que ça me permettait d'avoir, dans la boîte où j'étais, une participation qu'on donne aux mariés quand ils se marient. Donc, c'était pas très glorieux non plus. Bon, même si je l'ai épousé parce que je l'aimais, mais j'étais pas obligée de l'épouser. Je m'en foutais, en fait, d'être mariée.
Oui.
C'est parce que ça me permettait d'avoir un peu de pognon.
Un petit peu de pognon en plus à dépenser.
Voilà. Okay.
Et donc vous vous séparez, donc là tu te retrouves bah du coup mère célibataire hein, avec ouais. un enfant.
Non, il vit ma fille qui est quand même un peu grande. Lui il a un grand appartement, moi je vis dans un petit appartement. Du coup ma fille est restée avec lui, mais bon elle, voilà ça se passe bien comme ça. Là elle est pas à Paris, elle fait ses études donc. Voilà. Et donc je suis célibataire, mais c'est lui qui assure beaucoup du côté de ma fille.
J'imagine que ça ne te donne pas non plus le droit de relâcher au niveau boulot.
Ben non, j'ai été obligée d'accepter des choses que j'avais pas tellement envie de faire, et c'est une espèce de course. Parce qu'une fois que j'ai eu toutes ces dettes, il a bien fallu que je rembourse. C'est-à-dire, les gens, ils m'ont pas fait cadeau de tout. De les crédits revolving, les crédits à la consommation, c'est pas des bienfaiteurs, hein. Donc, il a fallu que je rembourse. Et je me suis retrouvée avec 1300 euros à rembourser tous les mois, ce qui est quand même conséquent.
Pendant donc, combien de temps?
8 ans.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Ah, c'est un gros fil à la patte. Hein.
Ouais, ouais. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour payer ça.
Ouais.
Mais ça m'a pas calmée.
Ouais, ça t'a pas calmée. Et quitter Paris, t'y as pensé?
Non, en tout cas. Pas du tout.
Ouais.
Puis bon, moi, j'avais un métier qui se faisait beaucoup à Paris. Mmh. Donc, c'était compliqué quand même.
Parce que c'est vrai, l'appel à la consommation.
Ouais.
Toutes les...
ouais.
Pour un peu que tu habites pas trop loin.
Ouais, mais alors, j'ai été dans des villes. Là, je voulais aller m'installer dans une ville un peu plus bas que la Bretagne. Putain, tu vas le croire, je tombe sur la boutique Isabelle Marant. Enfin, pas Isabelle Marant, mais un concept store qui vend d'Isabelle Marant.
Ouais.
Putain.
Mais elle est partout.
Elle est partout.
Elle est partout. Alors peut-être que si tu vas
En Auvergne,
dans la Creuse.
Ouais, voilà, faut que je m'isole. Ouais, à Rodez.
Oh, voilà, c'est ça. On s'est rencontrés via ce groupe. C'est toi qui m'as contacté, hein, puisque tu t'occupes de la communication, entre autres, mais surtout, tu es adhérente. Enfin, t'es membre, on dit membre quand il s'agit d'un groupe, de ce groupe qui s'appelle les débiteurs anonymes. Donc, il y a un groupe pour les gens qui, comme le dit ce nom, ont un problème avec l'argent. Alors, il n'y a pas que des débiteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle des sous-gagnants. Enfin, il y a plusieurs types de profils. Moi, j'ai assisté à une de ces réunions. J'ai trouvé ça fascinant. Donc, raconte tout et surtout... dis-nous depuis quand et comment est-ce que tu as trouvé ce groupe?
C'est en fait un groupe qui est issu des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes. C'est le même principe, décliné sur la question de l'argent, parce qu'on a souvent un rapport toxique En tout cas, les gens qui vont à débiteurs anonymes ont un rapport toxique avec l'argent, que ça soit parce qu'ils n'arrivent pas à en gagner, parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes et ils ne dépensent rien et ils se font une vie de merde. Ça, c'est les sous-gagnants. Soit ceux qui sont plutôt compulsifs et qui, du coup, se mettent dans des situations qui sont extrêmement empêcheuses de vivre. Parce que dans les deux cas, c'est quelque chose qui t'empêche de bien vivre.
Tu me parlais aussi de, encore une fois, ce sous-groupe qui s'appelle les CEDA, donc c'est-à-dire les chefs d'entreprise débiteurs anonymes.
Bah oui, parce qu'on ne sait pas gérer sa propre comptabilité, mais on ne sait pas forcément non plus gérer celle de son entreprise. Donc, on ne paye pas les échéances quand il le faut, on dépense trop d'argent.
On confond chiffre d'affaires et bénéfices.
Absolument. On mélange son compte privé et le compte de sa boîte. On achète pour soi alors que c'est pour sa boîte. Enfin bon, voilà. Et on se retrouve dans des situations compliquées. Puis surtout, on ne prospère pas, quoi. Donc, il y a un tas d'outils CEDA, donc chef d'entreprise débiteur anonyme, qui sont proches par certains aspects de ceux de DA. Et on a une panoplie d'outils pour devenir des chefs d'entreprise adultes aussi, responsables de leur entreprise et de ce qu'ils font travailler. Et voilà, pour prospérer, mais de manière... Et donc, c'est une fraternité de gens qui ont des problèmes d'argent et qui se retrouvent pour échanger sur ces problèmes et surtout pour utiliser des outils qui ont été inventés par ceux qui ont créé cette association, ce groupe, et qui sont des outils qui apprennent à faire ses comptes, à voir où l'argent va. C'est assez pragmatique quand même, même si c'est un programme spirituel, parce que justement, on essaye de donner à l'argent un aspect plus spirituel, que l'argent sert à ce que les choses circulent dans le monde, à ce qu'il y ait des échanges, à ce que ça soit rémunérateur d'un métier qui t'apporte. Enfin, voilà, d'essayer de mettre de la spiritualité dans quelque chose, que ça soit autre chose qu'une addition et une soustraction. Et puis, on s'entraide, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps et qui ont réussi à payer toutes leurs dettes, à devenir propriétaires, à avoir vraiment un rapport très bon et sain avec l'argent et qui, du coup, aident ceux qui arrivent. Donc, c'est quelque chose vraiment c'est qui mieux que quelqu'un qui a des... problème avec l'argent pour aider quelqu'un d'autre à avancer sur ce même problème.
Alors oui, ce qui est marrant, c'est que comme dans les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, voilà, il y a effectivement cette entité supérieure peut être voilà, soit une énergie, soit une sorte de dieu, soit la force du groupe.
Voilà, mais on appelle ça
la puissance supérieure. Voilà, on s'en remet à cette puissance supérieure.
En fait, c'est si tu veux le principe, c'est moi toute seule. Je sais pas faire avec l'argent. Je sais pas faire avec la drogue. Je sais pas faire avec l'argent. Je suis impuissante. C'est-à-dire que si je suis seule face à mon argent, je le dépense généralement d'une mauvaise manière et je me mets dans une situation qui a des conséquences sur ma vie. Donc ça, c'est ce que je fais moi quand je suis seule avec une somme d'argent. En revanche, quand j'accepte de demander de l'aide aux autres, de me servir de l'expérience des autres, de m'en remettre aux autres, pour au départ même pour des choses simples, pour tu vois signer un contrat pour un boulot, pour aller m'acheter quelque chose, je passe un coup de téléphone à quelqu'un qui me connaît et je lui dis est-ce que à ton avis c'est clean de faire ça, est-ce que, et il me remet dans la raison. Si j'en suis à mon troisième pull d'Isabelle Marant du mois et que j'appelle cette personne en lui disant oh là là j'ai tellement envie de celui-là, il est tellement pas pareil et tout, ben elle va me remettre dans la raison, elle va me redire, mais rappelle-toi où tu en es, rappelle-toi ce que ça veut dire en termes d'addition de ce que tu dépenses, rappelle-toi ce que tu vas ne pas pouvoir faire si tu mets cet argent dans ce pull-là. Donc là, le groupe t'aide, si tu veux, à changer tes comportements. Et puis, comme t'es impuissante, tu t'en remets à quelque chose de plus grand que toi pour acquérir ou essayer d'obtenir la raison par rapport à l'argent. Parce que moi, je le sais bien, ce qu'il est bon de faire et de pas faire, au fond de moi. Il y a cette partie à l'intérieur de moi qui est une partie saine. Et c'est cette partie-là que je dois faire grandir au détriment de cette partie qui, comme quand je me droguais ou quand je dépensais trop, est là pour me vouloir, entre guillemets, du mal. Donc, si tu veux, c'est cette énergie-là que je vais puiser dans le groupe et à l'intérieur de moi-même. C'est cette spiritualité-là, cette force de vie. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est bien vivre. Mais j'en ai rien à foutre des pulls noirs, en fait. Je préfère partir à la campagne. Tu vois, je préfère avoir une jolie maison. Je préfère partir en vacances avec ma fille. Bon, ben ça, je peux pas tout faire. Donc, remettre les choses dans ce que je suis vraiment au fond de moi et pas dans cette partie de moi qui veut mon malheur, en fait. Ben ouais.
Quand tu dis « je passe un coup de fil », c'est-à-dire qu'en dehors des réunions, il y a ce maillage qui existe, de membres, c'est comme plein de petits coachs un peu partout ?
Voilà, on a un parrain ou une marraine qui est quelqu'un qui nous connaît particulièrement.
Et qui est déjà sorti du processus.
Ouais, pas sorti parce qu'on n'en sort pas. Quand on a des problèmes avec l'argent, on en a toute sa vie. Donc, il faut être vigilant toute sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui continue à venir en réunion et qui continue à transmettre son rétablissement, c'est-à-dire la manière dont elle a réussi, dont elle réussit au quotidien à rester... Parce que moi, quand je fais mes comptes et que je suis réglo, putain, je me sens hyper bien. Je suis comme alignée, mm-hmm. J'ai les pieds sur terre, donc je peux avoir la tête un peu dans les nuages. Tu vois, je suis droite, quoi. Mm. Alors que quand je suis dans un comportement de claqué, ma tête, elle est éparpillée. Et donc, t'as un parrain ou une marraine hein, qui connaît particulièrement ta situation et qui que tu peux appeler, ou d'autres, hein, mais peut-être elle en priorité parce qu'elle te connaît particulièrement bien. Et puis, tu lui partages, tu lui dis, voilà, j'ai envie de ça. Alors, l'idée, c'est pas forcément qu'elle te dise non, parce que c'est pas une maîtresse d'école ni une maman, mais qu'elle te remette dans ta réalité. Et puis, on fait un travail sur nous, à travers cette fraternité, un travail qu'on appelle d'étape, où, si tu veux, on apprend à reconnaître des étapes qui s'écrivent et qui se partagent justement, généralement à sa marraine ou à son parrain, et qui sont, comment dire, des étapes qui te permettent de comprendre ton comportement et de regarder en face ce que c'est que ton comportement avec l'argent. Et aussi de te rendre compte du mal que tu as pu faire aux autres. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de mal dans mon comportement avec l'argent. J'ai fait du mal à mon mari quand je lui piquais de l'argent. J'ai fait du mal à ma fille quand je n'arrivais pas à lui offrir ce qu'il était légitime que je lui offre. Je me suis fait du mal. Donc, je regarde ça aussi. Et y a une étape qui parle d'amende honorable. Alors, c'est pas cato, hein, mais c'est juste aller reconnaître devant les autres sa part de responsabilité dans cette histoire. D'accord, on peut voir ça comme une maladie. Je ne suis pas responsable de cette maladie, mais je suis responsable de ce que je fais de mon rétablissement. Et donc, je suis responsable de qui je deviens. Et la meilleure des amendes honorables que je peux faire à ma fille, c'est de changer. C'est de lui montrer qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis plus celle-là.
Elle l'attend, ça, ta fille ?
Oh, je pense, oui.
Elle n'est pas comme toi ?
Non. Alors, c'est dingue, ma fille, elle est l'inverse. Elle est...
T'es contente ?
Ah bah ouais. Mais je pense qu'elle a pris du côté de son père. Il n'est pas du tout comme moi. Alors, elle est paradine, son père est tout sauf radin, c'est quelqu'un de très généreux, mais il fait gaffe, quoi. Grâce à Dieu, elle n'a pas pris de moi. Donc voilà, c'est un chemin de rétablissement. C'est un chemin où on se regarde faire, où on se fait aider des autres, où on en aide d'autres, parce que moi, j'aide aussi d'autres gens qui arrivent dans ce programme. Alors, on a ce qu'on appelle des réunions de décompression. Tu as un petit carnet que tu as tout le temps avec toi et tu notes tout ce que tu dépenses. Mais de la baguette, du timbre-poste, jusqu'à la voiture, les vacances. Tu notes tout, jour après jour, ce qui rentre et ce qui sort. Et à partir de ça, au bout de 3 mois, tu fais une espèce de moyenne de tout ça. Et tu demandes à 2 personnes du programme en qui tu as confiance, si possible un homme et une femme, parce que c'est bien d'avoir 2 visions. Et avec eux, donc si tu veux... Cette addition et ce petit carnet te permettent de voir comment tu fonctionnes. Parce que la colonne fringue, tu peux te dire à la fin du mois, putain, il y a 2000 euros. Mais j'en gagne quoi, 3. Donc c'est un acte d'humilité, parce que c'est pas la meilleure partie de toi-même que tu montres tout cas au début aux autres. Et avec eux, tu fais ce qu'on appelle un plan de dépenses qui correspond à qui tu es. C'est-à-dire que c'est pas un budget, qui est un sale mot, mais un plan de dépenses, ça correspond à qui tu es. C'est-à-dire que moi, par exemple, il est hors de question que, par exemple, bon, je dis ça au hasard, mais que je mette pas 100 euros dans le coiffeur.
Par mois.
Voilà, par exemple. Et ben ça, ils le respectent. Mais ça veut dire que si je mets 100 euros dans le coiffeur, ben j'en mettrai un peu moins, ben justement dans les vêtements. Enfin, tu vois, pour que les choses, voilà, soient équilibrées. Mais ce plan de dépenses correspond à ta personnalité. Et il évolue au fil de ta vie parce que t'évolues dans ta manière de profiter de la vie. Donc c'est une espèce de te regarde en face, quoi. Parce que la dépendance, qu'elle soit financière, enfin l'attitude de dépendance à l'égard de l'argent ou de la drogue, elle est entourée d'un espèce de flou qui s'appelle le déni. Donc t'es tout le temps là à relativiser, à dire « Oh mais non, mais je vais me démerder, il y a ça qui va tomber. » C'est la maladie du flou. Et là, t'apprends à voir, à mettre de la clarté. Alors c'est pas toujours facile, pas toujours très reluisant. Mais putain, c'est comme ça qu'on arrive à vivre.
C'est votre devise d'ailleurs.
Ouais. Le flou, oui. La clarté remplacera le flou.
Ouais. C'est ouais. Mettre des lunettes.
Voilà, exactement.
Et donc, en fait, pour faire quelque chose de simple, hein, c'est bah faire oui. Ses comptes, quoi.
Exactement. C'est noter ce qu'on dépense et ce qu'on rentre comme argent. Parce qu'on parlait de la sous-gagnance, il y a aussi. Alors, ça n'a pas été mon problème. Hein, parce que moi, j'arrive à rentrer de l'argent en général. Moi, le problème, c'est que je ne le garde pas. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des boulots qui correspondent à qui ils sont et à la valeur de leur travail. C'est une autre version de la maladie, du dysfonctionnement avec l'argent. Moi, je peux être sous-gagnante. C'est-à-dire que si je dépense tout mon pognon dans les fringues, mais que je vais pas chez le docteur, c'est un comportement de sous-gagnance. Parce que je me fais du mal, quoi. Je ne me respecte pas. Mais c'est vrai qu'il y a des profils de compulsifs, comme moi, et des profils de gens qui retiennent l'argent.
Mais alors, c'est pas pour autant des radins.
Non, et c'est qu'ils ont peur, quoi. Ils arrivent pas, quoi. Ils arrivent pas à s'acheter un truc pour eux. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas de la radinerie. C'est qu'ils sont dans une peur de ne pas avoir, et une peur, une insécurité dingue, quoi, qui les empêche de vivre. Moi, je suis dans le pays de oui-oui, enfin, comment on pourrait dire, je suis dans...
T'es du côté de l'optimisme. Tu
oui,
te dis que
ça,
l'argent
sûr.
Va rentrer.
Ça, c'est sûr.
T'es dans le désir aussi, d'une certaine
oui,
façon.
Oui, mais j'ai des trucs dingues. J'ai pu me dire, tu vois, pour dire la folie du truc, avoir un loyer à payer et me dire, je vais attendre le 20 du mois parce que le propriétaire, il va peut-être mourir.
Ah oui. Oui, t'arrives vraiment à te convaincre.
Alors, voilà, je te le dis, voilà, et je suis pas complètement tarée, mais si je suis vraiment honnête, une pensée comme celle-là peut me traverser et me dire, oh, j'attends, on va voir, j'attends. Et donc, moi, je suis en dehors de la réalité. Et cette personne-là, elle est dans la peur absolue.
Le sous-gagnant.
De ne pas avoir assez. Et puis, en général, mais de mon côté aussi, mais c'est une grande sous-estime de soi-même parce qu'elle ne se fait pas payer au prix où elle devrait être payée, parce qu'elle a des jobs qui sont en dessous de ses compétences. Sa vie est petite.
Mais alors, le sous-gagnant, il y a aussi un rapport au travail là-dedans.
Oui, absolument.
Ouais. Alors que dans le compulsif, il n'y a pas de rapport au travail.
En tout cas, pas toujours. Pas forcément. Non, ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas le même symptôme. Le rapport est dysfonctionnel avec l'argent, avec le travail, etc. Mais il ne s'exprime pas de la même manière.
Et dans les groupes, donc ces réunions de parole, c'est quoi les proportions entre compulsif et sous-gagnant?
En fait, il y a aussi des gens qui juste ne savent pas fonctionner avec l'argent, qui sont pas vraiment compulsifs, mais tu vois, qui payent pas les choses qu'ils doivent payer, que ça leur fait peur l'administratif, ils foutent les loyers, les trucs, les papiers de la banque, les impôts sous le tapis.
Donc on peut avoir aussi des phobiques administratives.
Voilà exactement. Okay. Il y en a aussi, mais au final c'est pareil. Ils se mettent dans des situations difficiles qui font que ça leur coûte beaucoup d'argent et que c'est de la non-vie aussi. Il y a aussi des gens qui vivent au crochet de leurs parents alors qu'ils ont 50 ans et qui ne supportent plus ce sentiment de dépendance financière, d'autant plus que généralement, ça ne se fait pas gratuitement, c'est-à-dire que les parents, du coup, ont un pouvoir dont souvent ils abusent.
Ah bah oui, ça peut virer en abus psychologique
voilà.
Assez vite, oui.
Donc tu vois, ça peut être plein de dysfonctionnements avec l'argent.
et le but étant toujours de remettre de la clarté.
Voilà.
De dire, on assainit tout.
Voilà, exactement. Et on regarde voit, où voilà. on est, ouais. et puis on regarde ce qu'est la réalité de notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, quoi. On est qui on est. On ne vit pas au-dessus de ses moyens ni en dessous. Voilà, moi, je me souviens, quand j'ai monté ma boîte, à un moment, je me voyais en haut de l'affiche. Ben non, c'est pas mon truc, en fait. Je ne suis pas comme ça, de toute façon. Donc, c'est aussi être à sa place, quoi. Être à sa place financièrement, être à sa... Tu vois, que les choses soient alignées, quoi. C'est vraiment une fraternité. C'est-à-dire qu'il y a plein de réunions partout, dans plein d'endroits dans le monde, de ces réunions. Il y en a aussi par Zoom. Et quand tu arrives dans une réunion comme ça, même si tu ne connais pas les gens, d'abord, il y a quand même un peu un rituel, on lit les mêmes textes, etc. à chaque fois, mais tu as l'impression de te retrouver avec des gens qui te connaissent. Donc, tu as une grande confiance. Moi, je peux tout dire. Tu vois, je n'ai pas peur d'être jugée, puisqu'ils sont, même si ça ne s'exprime pas de la même manière, ils sont tous comme moi. Donc, c'est extrêmement... parce qu'un des gros soucis, c'est la solitude quand on est dans des situations comme ça, parce qu'on a honte. Donc, on a plutôt tendance à se refermer. Et là, pour la première fois, on se rend compte qu'on n'est pas seul sur Terre à vivre comme ça. Donc, c'est super aidant.
Ah ben moi, en y assistant, là, j'ai trouvé que la force de ce groupe était dingue. Alors, pour le coup, j'ai jamais non plus assisté à des réunions d'alcooliques anonymes, ni de narcotiques anonymes. Donc, j'imagine qu'on ressent ça aussi dans ce type de réunion. J'ai été très surprise du nombre de gens qu'il y avait. Ouais. Il y en avait beaucoup.
Ouais.
Tout type de profil.
Ouais,
des hommes, des femmes, vieux, des...
Métiers artistiques, pas artistiques.
Oui,
il y a des gens, ils sont contrôleurs des impôts. Hein. Il y a des comptables aussi, qui sont bons comptables, mais pas pour eux.
Mais pas pour eux, ouais.
Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que ce qui nous réunit, c'est pas notre position sociale.
Non, il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir du succès.
Mais ouais. Hein? Et c'est pas le propos, on s'en fout du métier. Tu vois, on s'en fout. Ce qui nous réunit, c'est notre désir de fonctionner ensemble de manière saine, bonne, avec l'argent. C'est ça, c'est notre dysfonctionnement qui nous réunit pour qu'ensemble, on puisse en sortir.
Est-ce qu'il y a des traits communs à toutes ces personnes que tu as pu observer dans l'enfance, dans la construction?
Ouais, il y a des abus, beaucoup. Il y a beaucoup de sous-estime de parents qui ne se sont pas forcément occupés de leurs enfants. Oui, je te dis d'abus ou divers et variés. Enfin, voilà, des traumatismes. Comme dans les histoires de toxicomanie. Hein. C'est, en général, c'est pas des enfants, c'est pas le pays de oui-oui. Quoi. Ils viennent pas du pays de oui-oui. Il y a toujours eu des choses un peu difficiles. Avec des parents, il y a beaucoup de cas de parents qui arrosent leurs enfants. Et c'est vraiment leur pouvoir sur leurs enfants.
Et qui arrosent
financièrement.
Encore aujourd'hui.
Ouais, même sur des adultes. Hein. Et alors, donc, ils sont là pour s'en détacher, mais c'est difficile.
Pour réussir à dire à l'âge adulte non à papa, maman.
Ouais. Mais il y en a, ça peut être à 45 ans. Hein.
Est-ce que c'est des relations d'emprise?
Ouais, complètement. Donc, si tu veux, c'est tous les rapports dysfonctionnels avec l'argent. Mais tout passe par la clarté, regarder ce qu'on gagne, regarder ce qu'on dépense, ne plus se cacher, quoi, ne plus fermer les yeux, ne plus mettre les trucs sous le tapis, et puis se dire qu'ensemble, on y arrive. Avec les autres, on va arriver à ce que les choses s'arrangent.
Et il y a aussi, donc, dans ce programme, ce que vous appelez la vision.
Bah oui, parce que l'idée, c'est pas juste que, c'est que nos comptes soient tenus de manière claire, et qu'on n'ait plus de problème avec les impôts ou l'URSSAF, l'idée, c'est d'avoir une vie qui nous corresponde. Et c'est ça, au bout du compte. C'est pas juste d'avoir des comptes OK. Je sais pas, moi, j'avais envie de m'offrir un beau voyage avec ma fille. C'était une vision, alors pas à très long terme, mais c'était une vision quand même. Et ben, je me suis débrouillée pour y arriver, mettre l'argent de côté pour. Il y en a d'autres, ça va être s'acheter une maison, en province ou à Paris, ou d'autres encore, ça peut être devenir peintre, c'est parce qu'ils ont ça chevillé au corps, donc se donner les moyens d'aller vers ce qui est profondément leur place, quoi, dans l'existence. Donc c'est vraiment, c'est avoir une vision au-delà des comptes. Et c'est d'avoir ces comptes bien tenus qui te permettent d'accéder à la vision. Parce que quand tu as ton esprit qui est embarrassé de plein de problèmes d'argent, bah tu sais plus ce que tu as envie de faire dans ta vie. Tu as juste envie d'arriver à payer les trucs sans avoir trop de problèmes d'huissier. Donc ta vie, elle se réduit à ces problèmes d'argent. Et quand tu les règles, tu les résous, ou en tout cas tu travailles dessus, que tes comptes sont à peu près tenus, que tu sais où tu vas, bah t'as de la place dans ton mental pour justement rêver ta vie et mettre en place des choses qui sont des choses dont tu as envie véritablement, profondément. Donc en fait, c'est pas juste un programme comptable, loin de là. C'est un programme spirituel et c'est un programme qui touche tous les aspects de la vie. Parce que l'argent, ça touche tous les aspects de la vie. Nos rapports avec nos amis, nos rapports avec notre famille, nos rapports avec nos enfants, nos rapports avec nous-mêmes, nos rapports sociaux. Enfin, voilà, c'est vraiment central dans l'existence.
Effectivement, pris dans cette énergie un peu négative, si vous avez des problèmes d'argent, d'être dans la comptabilité, ça étouffe la créativité. Ce que tu dis, ça étouffe l'ampleur, etc. Mmh. Et on va vous aider à mettre tout ça en place et à avoir une vraie vie d'adulte, voire de chef d'entreprise de sa propre vie.
Absolument. Mais c'est d'être... De toute façon, on est souvent... Enfin, quand on arrive en débiteur anonyme, on est comme des mômes. Hein. Soit on se fait entretenir par nos parents, soit on ne résiste pas à la moindre frustration, soit on a tellement peur d'être découvert qu'on ne fait aucun métier. Enfin, voilà, on n'est pas des personnes à part entière. On n'est pas des adultes. Donc, voilà, on apprend à être nous-mêmes, quoi. Donc, nous-mêmes, quand tu as un certain âge, t'apprends à être un adulte heureux de ce qu'il a, quoi, de ce qu'il a construit.
Est-ce que savoir gérer son fric, ça veut dire qu'on est devenu un adulte?
Ah ben en tout cas, ça en fait partie. Je pense que c'est pas ça qui fait que t'as des rapports avec ton amoureux sain, ça c'est sûr, non, c'est autre chose. Mais déjà, c'est pas mal, t'as fait un bout du chemin. En tout cas, pour moi, dans ma problématique, ouais. Je dirais que d'avoir un rapport sain et clair avec l'argent, ça serait une preuve du fait que j'ai réussi une partie... ma vie.
La transition d'adulte.
Voilà.
Alors toi, ça fait combien de temps que tu y es?
Oh non, je veux pas le dire. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Je fais mes comptes. J'ai un petit carnet où je note ce que je dépense. Je reste encore à avoir, à cultiver parfois le flou. Moi, mon problème, c'est que quand j'ai de l'argent, je ne le garde pas. Bon, je vois un psy aussi, et puis surtout, j'apprends avec les autres à leur parler, à pas laisser ma tête travailler toute seule, à appeler quand j'ai envie d'acheter. Donc voilà, les choses se sont stabilisées, et puis surtout, je sais où j'en suis, même si j'en suis pas là où je voudrais en être. Néanmoins, je sais où j'en suis. Et puis, j'ai remboursé énormément de dettes. Donc, si tu veux, ça, c'est quand même satisfaisant. Bon, avais-je vraiment le choix? Non. Mais néanmoins, mon travail m'a permis de vivre et de rembourser des sommes importantes. Vraiment, le truc de départ, c'est capituler face au fait qu'on ne peut pas gérer seul, quoi. Et qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner. Donc, voilà, c'est ça que j'essaye d'appliquer. Et ça va mieux. Mais c'est pas encore... j'ai pas encore acheté ma maison.
Non. C'est quoi ton but, justement, là, demain?
Déjà, de fonctionner de manière saine avec l'argent. C'est-à-dire de plus avoir de peur, de plus avoir d'angoisse par rapport à ça, de me rendre compte que je suis capable d'emmener ma fille en vacances sans que ça pose un problème. J'ai le sentiment parfois que cette image de Léa et ses petits pulls me colle à la peau. C'est le cas de le dire.
Ça amuse les gens?
Ouais. Et puis moi, j'en parle, tu vois, de manière parfois un peu...
provocatrice.
Ouais, ludique, rigolote, machin. Mais c'est pas drôle.
Non.
Et tu vois, mon truc, c'est d'essayer que cette enveloppe me quitte, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. Tu vois, que je m'en débarrasse. Pas de l'argent, mais de l'enveloppe. Et c'est ça, mon but. Et je pense que la vie sera belle. Donc, je veux pas plus loin que ça. Mais c'est un travail pour moi.
Et un but ensuite peut-être d'acheter une petite maison,
ouais,
en province, de quitter,
ouais,
Paris.
Ouais, d'avoir une vie tranquille, quoi. Moi, j'en ai vécu des trucs, c'est bon. J'ai envie d'être tranquille. J'écris, j'aime beaucoup écrire. J'aime faire écrire les autres. Enfin, tout ça. Et tu vois, pas quelque chose de très... Voilà, je ne rêve plus du loft à New York, mais d'une petite maison tranquille.
Et aujourd'hui, tu penses appartenir à quelle catégorie socio-professionnelle?
C'est-à-dire qu'on dit que, je sais pas, quand tu as 3000 euros par mois, tu es considéré comme quelqu'un qui a de l'argent.
Oui, quand même.
Bon, bah voilà.
Oui.
Moi, je me considère pas comme quelqu'un qui a de l'argent, mais j'ai de l'argent, normalement.
Si demain, tu touchais 100 000 euros.
Ah non.
Ah non.
Ah non.
Je ne le souhaite pas.
Ah non. Non, je ne saurais pas comment faire.
Ouais.
Pas encore.
Non. Là, aujourd'hui, tu as 62 ans.
Ouais.
Hein, donc, ce qui veut dire que tu vas avoir une retraite.
J'ai une retraite.
Ouais, t'as une retraite.
Ouais.
Ouais.
Et je travaille un peu en plus pour compléter la retraite, mais j'ai une retraite et je trouve ça magnifique de se dire que jusqu'à ma mort, j'aurai un peu d'argent.
Alors, tu vas avoir combien de retraites? Enfin, tu as combien de retraites?
J'ai autour de 2005, 2004.
Donc, 2004, ça veut dire que tu peux te louer un petit appartement et vivre...
Ouais, enfin, à Paris, moyennement, Paris, mais... Ouais. Et puis surtout, je veux compléter ces 2004 qui, quand même, voilà, il y a des gens qui n'ont pas ça. Hein, donc, mais disons qu'à Paris, c'est pas beaucoup. Donc, j'ai une activité annexe qui me permet de compléter ça. En fait, l'idée, et je l'ai vu en faisant des réunions de décompression, il faudrait qu'à ces 2004, je rajoute 1300 euros.
Ah, c'est très précis.
Ah bah oui, les comptes, c'est précis.
Ouais. Hein.
Pour que je sois dans un plan de dépenses qui correspond à la partie saine et OK de moi-même.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est ça mon objectif.
C'est ça l'objectif, c'est de rajouter 1300 euros.
Voilà.
OK. OK, Léa.
Bah, merci.
Merci. Et surtout, merci beaucoup.
Surtout, merci à débiteurs anonymes.
Et merci à débiteurs anonymes,
ouais,
absolument.
Surtout.
Ouais.
Parce que je pense que ça peut... Voilà, c'est pas facile en ce moment. Et je pense que ça peut vraiment aider des gens... C'est, comment on dit, un truc de salut public ?
Santé publique.
Ouais. DA, c'est un truc de santé publique.
Est-ce que tu penses qu'en période d'inflation, il va y avoir encore plus de personnes chez débiteurs anonymes ?
On a de plus en plus de monde. Hein.
Ouais.
Ah ouais, de plus en plus. Parce que, voilà, il y a des gens qui se sont mis des crédits sur le dos à cause de maisons achetées à une époque où c'était possible et que, voilà, qui ont été un peu trop, tu vois, optimistes. Et qui aujourd'hui n'y arrivent plus. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'être aidés aussi. Tu vois, on n'est pas des comptables, hein, mais nous on aide à vivre avec ce qu'on a. C'est quand même pas mal.
C'est une belle promesse.
Ouais, d'être à sa place avec l'argent qu'on gagne. Alors si on n'en gagne pas assez, il y a aussi on fait des groupes d'action pour s'entraîner, à poser des actes pour trouver du boulot, pour s'entraider entre nous. En fait, tu vois, il y a une vraie fraternité. Mais l'idée, c'est ça, c'est de juste bien vivre avec ce qu'on a, quoi.
C'était un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunespodcast@gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thunes à Thunes, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.